Du genre dans l'histoire, épisode 12, Femmes en armes. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cet épisode du podcast de Mnémosyne, du genre dans l'histoire. Je suis Clémentine de Tellier et vous avez l'habitude d'entendre ma voix pour les lectures et l'analyse des manuels scolaires. Dans ce nouvel épisode, Cécile Béguin reçoit non pas un, ni deux, mais trois invités. Vous entendrez ainsi Véronique Garrigue, professeure agrégée dans le secondaire, docteur en histoire moderne et spécialiste des femmes en armes. Nous recevons également Chloé Leprince, journaliste à France Culture, chercheuse spécialiste des femmes engagées dans la commune. Elle a préfacé l'ouvrage « Les pétroleuses » d'Edith Thomas, paru en mars 2021. Enfin, vous entendrez Fabrice Virgili, qui est directeur de recherche au CNRS, spécialisé sur les relations de genre au cours des deux guerres mondiales. Ensemble, ils vous parleront des femmes en armes du XVIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse découvrir l'épisode.
La guerre en Ukraine et les multiples photographies de femmes en uniforme engagées dans l'armée ukrainienne auprès de leurs compagnons masculins ont révélé au monde une réalité immémoriale. Les femmes ne sont pas étrangères à la guerre. Dans le cadre d'une histoire de France qui glorifie les grands hommes et les grands soldats, toujours masculins, à l'exception notable de la figure de Jeanne d'Arc, et où l'on renvoie généralement les femmes à la société civile, passive et plutôt victime d'un conflit qu'active dans les combats, quelle place est faite aux femmes dans l'histoire de la guerre? Guerre civile, guerre mondiale, guerre de religion, révolution, révolte, quelle place tiennent les femmes dans les conflits armés? La question du genre de la guerre et de la place des femmes dans les guerres n'est pas neuve. Elle est travaillée par les historiens et les historiennes depuis plus de 25 ans. À Mnémosyne, nous avons donné le prix 2019 à Maria Goupil-Travers sur les braves combattantes, humbles héroïnes, évoquant les femmes engagées dans la guerre pendant la Révolution. Ce mémoire a été dirigé par Dominique Godinot, qui elle-même a écrit sur les femmes dans les guerres révolutionnaires il y a plus de 20 ans. Ses travaux, nombreux et passionnants, restent peu connus et ne connaissent aucune traduction dans les programmes d'histoire. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous nous demanderons pourquoi les femmes en guerre sont invisibles dans les cours du secondaire et comment faire pour y remédier. Nous nous demanderons aussi en quoi réfléchir au genre de la guerre peut aider les élèves à mieux appréhender la réalité des conflits et progresser sur le chemin de l'égalité. Trois spécialistes vont nous aider à répondre à toutes ces questions. Bonjour Véronique.
Bonjour, donc je suis enseignante dans le secondaire, docteur en histoire moderne et actuellement je travaille sur les femmes en armes à l'époque moderne, de la fin de la guerre de 7 ans à la veille de la Première Guerre mondiale.
Bonjour Chloé.
Bonjour, donc je suis Chloé Leprince, je suis journaliste à France Culture, spécialisée en sciences sociales et j'ai une deuxième casquette, c'est que je fais de la recherche depuis quelques années sur les femmes en 1871 et les modalités de l'engagement des femmes dans la commune.
Bonjour Fabrice.
Bonjour, je suis Fabrice Virgili, je suis chercheur, historien au CNRS et je travaille depuis un certain temps sur l'effet des guerres et plus particulièrement des guerres mondiales sur les relations de genre. Comment est-ce que la guerre perturbe jusqu'à l'intime les relations entre hommes et femmes?
Alors, pour commencer, je vais vous demander à tous les trois si les femmes sont présentes dans toutes les guerres et dans tous les conflits qu'on a pu observer dans l'histoire.
Pour l'époque moderne, on pense d'abord souvent que les femmes elles ont été présentes comme victimes. Pourtant, en fait, à chaque conflit, pour peu qu'on se donne la peine de les rechercher dans les archives, archives souvent écrites par des hommes, pour des hommes, on finit par trouver des femmes qui ont tenu les armes et ne serait-ce que pour défendre leur vie. Alors avant la Révolution française, il y a ponctuellement des règlements pour interdire ou en tout cas limiter la présence des femmes dans les armées royales. Le premier en la matière date de l'époque de Charles Ier, donc en Angleterre, lors de la guerre civile. Et quand une ville est attaquée, on va aussi retrouver de toute façon ces femmes avec des armes, on en reparlera sans doute, qui montent sur les remparts. Et elles sont là comme les hommes en fait pour repousser l'ennemi. Et puis on a des gravures hollandaises de cette fin du XVIe siècle qui peuvent en témoigner. Et sinon, c'est souvent l'absence d'un mari qui place les femmes en position de chef de maison du côté des nobles et qui, dans ces cas-là, sont à même de défendre leur seigneurie.
Je sens, citoyenne, tout ce que méritent d'éloge les sentiments généreux que vous inspire l'amour de la patrie et qui vous élève au-dessus de votre sexe. Mais ce n'est pas ma façon de penser personnelle que je dois vous rendre, c'est la volonté des lois que je dois vous transmettre. celle du 30 avril 1793 défend expressément d'admettre des femmes dans les troupes de la République. Elles peuvent animer les militaires de leur courage, elles ne doivent pas leur en donner l'exemple dans les combats. Réponse de Jean-Baptiste Bernadotte, alors ministre de la Guerre, à la citoyenne Laville qui propose ses services en août 1799.
Alors, en 1871, pendant la Commune de Paris, oui, on trouve des femmes dans la Révolution, des femmes en armes aussi, même si je pense que ce qui est intéressant par rapport à la Commune de Paris, c'est justement de s'interroger sur ce que c'est faire la Commune de Paris, faire cette révolution-là, faire cette guerre-là. Et c'est pas seulement un fait militaire du tout, loin de là, on va pouvoir le voir au fur et à mesure de vos questions, mais... Du coup, ça repose aussi la question de ce que c'est être une femme engagée dans ce conflit-là. Et c'est pas forcément sur un mode viriliste, un mode combatif, certes, mais qu'est-ce que c'est combattre à ce moment-là qu'il faut regarder ça. La Commune de Paris, c'est aussi un moment où on peut remonter le temps et regarder évidemment l'engagement des femmes en 1848 et puis pendant la Révolution française, parce que les communardes sont évidemment irriguées par ce passé pas si ancien. Et dans leur engagement, on voit qu'elles vont rejouer des façons de faire qui étaient déjà là en 1848. C'est vrai pour le fait de combattre, mais c'est aussi vrai pour ce que c'est de, on va dire, ramollir la citoyenneté et de décaler les frontières de la citoyenneté, notamment par le fait armé, mais pas seulement, parce qu'on sait bien que c'est en 1793 qu'officiellement l'armée a été fermée aux femmes. Et donc, qu'est-ce qu'elles font après quand elles sont en guerre? C'est ça la question que nous permet de regarder notamment la Commune de Paris.
Oui, ces révoltes, révolutions du 19e interrogent vraiment le lien entre politique, citoyenneté et engagement militaire. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on va voir au XXe siècle.
Alors, sur la question de la présence, tout dépend effectivement de ce qu'on appelle présence. Le propre du XXe siècle, c'est d'avoir presque théorisé le mélange du militaire et du civil dans la guerre, où les civils deviennent explicitement et clairement, et toute une série de discours stratégiques ou politiques le confirment, la présence des civils dans la guerre. Mais qu'est-ce qu'on appelle présence ? C'est-à-dire, je crois qu'en ce qui concerne les femmes, la présence, parce qu'elles sont impliquées et concernées, va de soi, comme de toute la société en guerre. Et plus la guerre s'étend à la totalité du territoire et à la totalité de la population, plus ce fait est évident. Ensuite, on a différentes graduations qui sont passées du fait d'être concernées à être mobilisées à partir du moment où les États-nations ou d'autres groupes politiques décident d'organiser la présence des femmes à côté ou dans la guerre. On pourra y revenir. Et puis, je crois qu'il faut faire une distinction entre militarisée et combattante, c'est-à-dire que militarisée, mise en uniforme, c'est le cas, par exemple, des auxiliaires féminines dans les différentes armées alliées au cours de la Première Guerre mondiale, enfin, pas toutes, les Anglaises et les Américaines principalement, elles sont en uniforme, elles peuvent défiler en uniforme, mais en aucun cas, elles n'ont une arme à la main et elles le combattent. Et à l'inverse, les femmes peuvent combattre sans être en uniforme. C'est le cas, évidemment, des résistantes, des partisanes. Et on voit bien que la frontière n'est pas superposée entre militaire et combat.
Oui, d'ailleurs, ça peut être une première ligne de réflexion, parce que quand on parle de femmes en armes, effectivement, est-ce qu'on parle de femmes qui prennent les armes ou est-ce qu'on parle de femmes en uniforme ? Et on est sur des réalités qui sont très différentes en fonction des époques. Véronique, à l'époque moderne, qu'est-ce qui va donner aux femmes l'accès aux armes ?
Donc c'est face à un conflit que les femmes vont prendre les armes, de toute façon. Pour les femmes nobles, c'est l'absence du mari qui les met dans cette position, parce qu'elles sont en train de défendre donc le lignage, soit parce qu'elles sont veuves et l'absence du mari dans ces cas-là est définitive. C'est des maris qui sont eux-mêmes partis à la guerre, qui sont prisonniers. Elles se retrouvent à faire des tractations éventuellement pour qu'ils reviennent. Ou pas forcément. C'est par exemple le cas de Françoise de Sesgly, qui a pu faire des tractations, mais finalement, son mari est tué de toute façon. Et donc, on est en 1590, on est du côté de la frontière espagnole, et c'est cette femme qui prend les armes et qui défend toute cette région autour de Perpignan et de Leucate. La prendre spontanément, c'est parce qu'elle se retrouve en position d'autorité, en fait. C'est ce qui va les autoriser à prendre les armes le plus souvent.
Oui, je voudrais revenir à la question de la nécessité, parce qu'on se dit, et on l'observe dans un certain nombre de cas, qu'une société contrainte par la guerre va avoir besoin de femmes parce qu'elle manque d'hommes pour les mobiliser et pour participer à cet effort de guerre. Et je crois que ça se confirme dans un certain nombre de situations. On le voit bien, par exemple, dans le cas français en 1940, tellement peu de personnes s'engagent dans la résistance que le fait que des femmes y soient, elles peuvent trouver leur place et être accueillies plus facilement. Mais à l'inverse, en 1915, toujours en France, alors que les pertes depuis l'été 14 ont été gigantesques, que l'état-major ne sait plus comment finalement remplacer ces dizaines, ces centaines de milliers d'hommes morts au combat, je rappelle que c'est au mois d'août 14 que les pertes sont les plus importantes quotidiennement, eh bien, malgré cette nécessité absolue de renforcer les hommes, les combattants, on ne va pas aller chercher, non seulement on ne va pas chercher les femmes, mais on va s'y opposer formellement, et on va à l'inverse aller chercher des hommes qui n'étaient pas envisagés au début. Par exemple, il y a un exemple connu d'un père veuf de 4 enfants, et bien malgré sa charge familiale, il va être mobilisé. C'est à ce moment-là qu'on va aller aussi chercher des prêtres, des instituteurs. On préfère prendre tous les hommes qu'accepter une seule femme.
Alors pour continuer avec ce que peut dire Fabrice, il y a la nécessité et il ne faut pas négliger, même si ça peut être des proportions qui sont tout à fait minimes, le fait que des femmes vont chercher à s'engager, et ce dès la période moderne. Il y a des femmes qui ont le goût des armes, du combat, qui ont pu y être entraînées, et, ou tout simplement parce qu'au cœur d'une région en conflit, là je peux penser à, on a l'exemple de deux combattantes, on est dans la région de Lille au cœur du grand siècle, dans les années 1640-1650, et on sait ensuite qu'elles ont pu prendre un habit d'homme, donc masculin, pour entrer dans les armes, pour défendre leur vie, ou tout simplement par engagement, parce qu'elles se retrouvent dans une région qui est au cœur de la guerre.
C'est intéressant parce que c'est pas la même chose de se demander ce qui autorise ou ce qui favorise leur accès aux armes. Et encore, là, on dit leur accès aux armes, mais peut-être c'est au fait militaire. Et c'est pas tout à fait pareil non plus, évidemment. Et en ce qui concerne un moment insurrectionnel, révolutionnaire, comme la Commune de Paris, il faut quand même avoir en tête que, alors que les hommes de moins de 40 ans sont censés combattre aux yeux des institutions légitimes, officielles, communalistes, ils sont censés être 300-350 000, les hommes de moins de 40 ans à prendre les armes pour défendre Paris, défendre la Commune, et parfois, certains disent, défendre la patrie. On voit qu'il y a différents objets de mobilisation. En fait, dans les faits, concrètement, ils seront à peine 25 000. Donc ça relativise aussi le fait militaire, hommes et femmes confondus, à l'échelle de Paris. Donc si vous avez 25 000 hommes concrètement qui prennent les armes, vous imaginez bien qu'on parle de peu de femmes. Et puis après, ça pose la question de ce que c'est le front. À quel endroit on se bat autour de la Commune de Paris ? Et ça pose la question surtout de la temporalité. Moi, c'est beaucoup là-dessus que je travaille pour essayer d'attraper les femmes dans la Commune de Paris, parce que sinon, on a forcément en tête, vous parliez de Jeanne d'Arc, mais moi, c'est Louise Michel, ma figure encombrante, évidemment, et Louise Michel habillée en homme, alors qu'elle n'a pas du tout passé 72 jours habillée en homme, et Louise Michel avec un fusil à la main. Cette figure-là, elle va polluer la vision qu'on a non seulement des femmes dans la Commune de Paris, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais aussi même de ce que c'est la Commune de Paris. Parce que en fait, le front, il est assez loin, en fait, il est aux fortifications, on se bat plus loin, mais la Commune de Paris, pendant un certain nombre de semaines, mais non négligeable, ça commence le 18 mars et ça se termine fin mai dans la semaine sanglante, mais pendant la majeure partie du temps des 72 jours de la Commune de Paris, c'est pas du tout un moment de chaos, de bataille dans Paris, d'incendie, avec des morts à tous les coins de rue, et un moment extrêmement anomique. Pendant la Commune de Paris, on travaille, on fait du travail militant, on fait du travail tout court aussi, parce qu'en plus, Paris a faim, vient de vivre des mois de siège, donc il n'y a plus de trésorerie, si je peux faire un anachronisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent dans les poches des gens, et il y a à peine à manger. Enfin, donc on a besoin de travailler, de remettre en route la Commune de Paris. C'est aussi un moment d'organisation politique, un moment c'est un moment institutionnel également. Et donc, c'est ça qu'on fait, et c'est pas forcément se battre. Et donc, dans ce moment-là, il se trouve qu'il y a quelques femmes qui vont prendre les armes. Mais souvent, on cite parmi les femmes mobilisées dans le fait guerrier, le fait militaire, on va citer le bataillon des fédérés, fédérés EES, qui est dans le 12e arrondissement. Mais le bataillon des fédérés, c'est le 10 mai 1871. La Commune, ça commence le 18 mars. Donc, qu'est-ce qu'elles font pendant ce temps-là, en fait ? Et plein d'autres exemples assez connus, les barricades, évidemment, c'est la toute fin. Pendant toute la période avant, donc je disais, on travaille pendant la Commune de Paris, mais les restaurants, les cafés sont ouverts, il y a des fêtes, il y a des concerts, il y a des spectacles au théâtre, etc. C'est pas du tout un moment de chaos qu'on s'imagine. Et donc, dans ce moment-là, bah, les femmes, elles vont plutôt moins prendre les armes parce que elles travaillent autrement à la cause. Néanmoins, il y en a quelques-unes qui vont se rapprocher du front, des fortifications, des hommes en armes. Et là, certaines vont revêtir l'uniforme. C'est très rare, en réalité. Et certaines vont se battre. Mais qu'est-ce que c'est se battre ? Est-ce que charger les fusils, apporter les munitions et faire du travail qui relève en fait de ce qu'on appelle aujourd'hui le CAIR, et qu'évidemment elle n'appelle pas le CAIR comme ça, mais est-ce que c'est aussi du fait militaire ? Je crois. Par exemple, il y a une intrication des objets de ces femmes-là. Le collectif le plus nombreux des femmes mobilisées, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Vous voyez bien que la défense de Paris, c'est très polysémique. Les soins aux blessés, c'est plutôt nourrir et soigner les blessés. Ça, c'est du fait militaire aussi, parce qu'on a quelques sources, on a très peu de sources sur les femmes dans la Commune de Paris, mais quelques sources qui nous montrent qu'au plus près des hommes qu'elles vont soigner, penser, nourrir, accompagner et soutenir, certaines vont avoir un accès aux armes comme ça. Alors, est-ce que c'est une stratégie de dissimulation pour certaines, un art de la résistance possible ? Est-ce que c'est dans le feu de l'action qu'elles se mettent à prendre les armes ? Possible. Est-ce que c'est une revendication ? C'est moins sûr, parce que l'autre exemple très connu, c'est les femmes qui vont en délégation à l'hôtel de ville réclamer les armes. Ça, c'est le 13 mai 1871. Donc, tout le début, c'est un moment d'organisation qui n'est pas forcément guerrier.
Oui, alors justement, tu as un peu défriché le sujet. Je voulais vous demander quels sont les types de participation féminin à la guerre. Est-ce qu'il y a des types de participation spécifiquement féminins ou des modalités d'action qui sont spécifiquement féminines ? Alors, bien sûr, tu as introduit sur la question du care et des soins, mais est-ce qu'il y en a d'autres ?
Pour la période moderne, les femmes, alors elles sont aussi, alors ce serait peut-être pas le cas, on a vraiment cette continuité, l'impression des fonctions d'un espace domestique et d'un intérieur qui serait ensuite défendu. Mais d'une façon plus générale, l'action des femmes et cette participation féminine, elle s'inscrit de toute façon dans une action collective. Le plus souvent, elles défendent leur famille, elles défendent leurs biens. Ces femmes, on les retrouve donc sur les remparts d'une cité dans 95% des exemples qu'on peut trouver pour les guerres de religion, mais c'est aussi pendant la Fronde, enfin tous les conflits. Et à l'époque de Louis XIV également, ils sont très nombreux. Pour les femmes nobles, on revient toujours au même cas, hein, tout dépend de leur situation et de leur autorité sur leur terre. Et c'est à ce titre qu'elles peuvent commander les armes. Donc la modalité d'action dans ces cas-là, elle est forcément individuelle. Elle se retrouve à la tête de troupes. en position de commandement, non pas forcément parce qu'elles sont une femme, là il y a, on a véritablement la position sociale qui écrase le genre. Et on a par exemple Pierre de l'Étoile, donc le mémorialiste du XVIIe siècle, qui a pu noter que Marie d'Ailly, c'est la belle-fille, pour faire très courte, de l'amiral de Coligny, pour ceux qui connaissent, pendant les guerres de religion, et elle prend la tête de ses serviteurs pendant que son mari est en train de guerroyer à l'autre bout du royaume, et c'est comme ça qu'elle met en fuite des ligueurs qui étaient à Châtillon-sur-Loing en 1590.
C'est intéressant parce que pendant la Commune de Paris aussi, les femmes vont se positionner en gardiennes de l'intérieur. L'intérieur étant Paris, là, étant les mondes populaires, étant la rue, il y a un enjeu de localité très important. C'est des gens qui se connaissent, qui vont se mobiliser ensemble souvent, qui vont adhérer ensemble à une structure, qui vont aller se manifester entre voisines, entre voisins, en famille aussi. Il y a une notion de maisonnée un peu qui entre en scène au moment de se mobiliser. Et ces gardiennes de l'intérieur, ça se voit y compris dans la petite partie qui correspond aux femmes en armes, à ce qu'on appellerait des femmes en armes dans la commune, par exemple, la recherche des réfractaires, ça va être une recherche armée qui va se faire, plutôt en dernière partie du moment de la séquence communaliste. Et ça, elles se vivent en gardiennes de l'intérieur versus les hommes qu'elles vont désarmer, humilier, dans un geste humiliant, et emmener en prison parce qu'ils ont refusé de servir la commune ou de sauver la commune face à l'assaillant.
Là, on est dans une image assez classique que l'on retrouve tout au long du XXe siècle. J'évoquais tout à l'heure la mobilisation des femmes. Alors, on pense peut-être d'abord à la mobilisation pour la production, pour vraiment soutenir l'effort de guerre. Mais cet aspect de la mobilisation qui est utilisé, soit les femmes, soit leur image, pour dire aux hommes quel est leur devoir, est quelque chose qu'on retrouve quasiment dans toutes les propagandes de guerre au XXe siècle. C'est cette affiche britannique de la Grande Guerre, « Women of Britain say go », et on voit des hommes partir. Alors, « Women of Britain », c'est la propagande qui l'écrit comme ça. Savoir si ça correspond exactement à la réalité de chaque foyer, c'est toute une autre question. Mais là, il y a sans aucun doute une mobilisation très forte pour que la totalité de la population, on connaît aussi les travaux sur les enfants, mais participe à cet effort de guerre. Les femmes, en tant que porteuses de l'assignation des hommes à combattre et à être prêts à mourir, à se sacrifier, c'est quelque chose que l'on retrouve là très fortement. Donc ça, je crois que c'est un élément essentiel et commun à tous ces conflits.
Et il y a une autre modalité en 1871 qui est très importante et qui est d'autant plus à souligner qu'en fait, une large part de la réelle transgression des frontières de genre est là, c'est le travail, au sens d'un droit au travail. Les femmes qui s'engagent pour la Commune de Paris, comme les hommes d'ailleurs, c'est des femmes majoritairement issues des classes populaires, des ouvrières. Les hommes sont ouvriers, artisans, beaucoup d'artisans, quelques figures intellectuelles aussi, des journalistes. Mais c'est plutôt les mondes populaires parisiens qui vont se mobiliser. On est à un moment où le mouvement ouvrier va cristalliser, va s'installer. Institutionnalisée. L'Association internationale des travailleurs, c'est 1864. La section française, c'est 1865. Donc, on est quelques années après. Il y a des femmes à la section française. On les retrouvera engagées dans la Commune de Paris. Sauf que il y a des clivages très forts autour du travail des femmes dans les années qui précèdent immédiatement la Commune de Paris. Et on peut aussi comprendre le peu de sources qu'on a sur la présence des femmes dans le mouvement communaliste comme une manière pour ces femmes de se saisir de l'épisode insurrectionnel, de l'événement, du floutage des frontières de genre pour affirmer ce droit au travail. Et ce qui est intéressant, c'est que je citais l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Finalement, la défense et les soins, qui sont des mots d'ordre conformes à l'éthos communard, vont être mis en avant, alors que l'essentiel, mais massif de l'action de cette union des femmes va être d'organiser le travail féminin. Et ça, c'est plus subversif en réalité que la défense de Paris. Donc on voit bien qu'il ne faut pas se fier aux apparences sur ce qui est le plus transgressif en 1871. instaurer un droit au travail visible, c'est-à-dire elles ont toujours travaillé chez elles, la question n'est pas là. Mais en revanche, un travail organisé à l'extérieur du domicile, en atelier, qui sont aussi des, évidemment des lieux de socialisation, mais des lieux d'apprentissage du politique, des lieux d'existence collective, et ben ça va être une conquête qui va se faire... Aussi dans les coulisses, alors que la défense de Paris va être une revendication peut-être plus légitime quand on voit qu'elle réclame des armes au mois de mai, par exemple.
Ça peut être aussi la mixité là, qui perturbe hommes et femmes mélangés, puisque finalement, la présence des femmes dans le monde du travail au XIXe siècle, elle est déjà massive. Mais dans l'espace public, mélangée avec des hommes, peut-être que ça, il y a une subversion aussi là-dedans, non ? Pas nécessairement ?
Bah, là, les métiers, c'est-à-dire que l'Union des femmes... Alors, je vais rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelles femmes vont être mobilisées par des organisations qui émergent dans le temps de l'événement. Et l'Union des femmes, c'est organisée principalement par Elisabeth Mitrieff, qui est l'envoyée de Marx, qui était chez Karl Marx à Londres avant et qui arrive au début de la Commune, mais la Commune a déjà démarré. Et puis, une deuxième figure qui est très importante, encore plus importante à mon avis, qui s'appelle Nathalie Lemel, qui est une ouvrière relieuse, qui est une figure centrale du mouvement ouvrier à Paris, hommes et femmes confondus, justement, dans un cadre mixte. Par exemple, elle fonde avec Varlin un restaurant coopératif qui s'appelle La Marmite, dont elle assure la gestion et la trésorerie. C'est très important sur les femmes et l'argent, par exemple. Eh bien, toutes les deux, elles vont organiser les femmes. Sauf que Lemel, par exemple, elle est relieuse. Elle a gagné en 1865, une des premières très grandes grèves au moment où le droit de grève commence à trouver un peu de réalité et que ça commence l'étau se desserre. Elle gagne une grande grève pour obtenir l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes dans le monde de la reliure, qui est un métier mixte. C'est pour répondre à votre question. On ne trouve pas de relieuse dans les traces qui me restent. Alors, elles sont lacunaires et partielles. Il peut y avoir des choses qui ont disparu. Il y a beaucoup d'archives sur les femmes qui ont disparu les femmes dans la commune qui ont disparu. Néanmoins, j'ai des listes de femmes. Moi, l'essentiel de mes sources, c'est des listes de femmes au travail. Il n'y a pas de relieuse. Il n'y a pas de métier mixte, en fait. Et donc, on peut faire l'hypothèse, déduire de ça, que peut-être un des buts de cette union des femmes, ça va être de proposer une modalité d'organisation de ces femmes au travail en atelier, en collectif, pour les sortir de chez elles, en tout cas pour affirmer une existence politique, une existence sociale, une existence au grand jour, si je puis dire, à des femmes qui étaient brocheuses, brodeuses, piqueuses, culottières, couturières. Et ça, c'est plutôt des métiers qui ne s'exerçaient pas en mixité. Par contre, la mixité en milieu... je ne sais pas si on peut dire en milieu militaire, mais en tout cas auprès du front, elle fait débat même chez les communards. Hein. Il y a beaucoup de fantasmes sur les Amazones, y compris dans les rangs communards. Et on voit que dans certains clubs ou dans la presse communaliste, la question de laisser les femmes accéder aux hommes qui se battent à l'extérieur au niveau des fortifications est un objet de débat. C'est écrit d'une façon suffisamment explicite pour qu'on comprenne qu'elles vont subvertir leurs hommes et que c'est une présence sulfureuse et l'enjeu sexuel est réel.
Oui, justement, je voudrais vous poser à tous les trois la question du fait militaire. C'est-à-dire, est-ce que les femmes sont formées comme les hommes à porter les armes, à se battre ? Est-ce qu'elles portent un uniforme ? Finalement, est-ce qu'on les trouve soldates à part entière ?
Alors la question de la formation, en tout cas pour la période moderne, elle est cruciale parce que objectivement, il n'y a pas de raison que les femmes ne puissent pas combattre. Il n'y a pas des armes qui seraient genrées. Une rapière, ça reste une rapière. Il n'y a pas les chevaux qui sont utilisés. Enfin oui, il n'y a pas a priori un problème qui empêcherait les femmes d'être sur un cheval, si ce n'est ensuite le fait qu'on les fait monter d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est encore... Et donc là, c'est des règles qui sont mises en place, sociales, mais biologiquement, voilà, une femme peut être à califourchon sur un cheval et tenir une épée sans se démonter l'épaule. Donc, il n'y a pas d'armes genrées. Et là, d'expérimentation archéologique permet de le montrer très, très clairement. Alors, il y a deux choses. Une formation qui serait... formelle organisée dans les villes. On peut s'appuyer sur les travaux de Nicole Dufourneau à Nantes au XVIe siècle et qui retrouve dans les archives de la ville des exemples de femmes qui s'entraînent comme les hommes pour le guet, par exemple la milice urbaine. Elles sont formées à l'égal des hommes dans ce cadre urbain. Après, il y a une formation qui est beaucoup plus informelle et aussi là, donc beaucoup plus compliquée à retrouver, mais on sait qu'elle existe. C'est celle qui est faite dans le cadre des familles. Alors là, on a des exemples, on ne va pas dire à foison, mais suffisamment nombreux pour se rendre compte que ça puisse exister. Pour le XVIIe siècle, on a Madame de Laguette, qu'on sait être excellente cavalière, elle a laissé ses mémoires. On sait également qu'elle est habile au pistolet, au fleuret, au fusil. Et donc, toute cette formation, elle l'a obtenue grâce à son père. Bon, son père n'ayant pas eu de fils. Donc là, c'est aussi une absence, finalement, qui lui permet d'accéder à ce savoir. Et son éducation est faite par un maître d'armes. On a aussi l'exemple de Madame de Saint-Balmont, du côté de la Lorraine, à peu près pour la même époque, qui, elle, pendant la Fronde, se promène l'épée ou le pistolet à la main au milieu des campagnes, en plus avec un habit d'homme qui défend ses terres, parce que son époux n'est pas là, lui aussi à la guerre. Et son biographe nous indique en fait que c'est lui en fait qui l'a entraîné. Parce que ce sachant absent, donc, il lui a permis de s'entraîner à tout, dit-il, à tout l'exercice de la guerre et des armes. Et il lui a même donné des leçons d'équitation. Alors sur le cheval, on va être très pragmatique. Hein. Comment se déplacer sans apprendre à monter sur un cheval, ça va être compliqué. Alors la question de la selle, de savoir comment est-ce qu'on peut monter. En tout cas, à partir du XVIIe siècle, là aussi, il y a une institution qui se met en place autour des académies équestres. Et on a des listes de femmes qui sont entrées dans ces académies, par exemple. Donc c'est très difficile d'aller retrouver l'information. Hein. Il faut vraiment les chercher, parce que sinon, elles sont totalement invisibilisées dans les sources. Mais on sait en tout cas qu'une formation est nécessaire. Après, tenir une hache pour défendre, enfin, y a pas, là, c'est plutôt les outils en fait, hein, qui sont utilisés, et c'est ce maniement technique au quotidien qui permet en fait, de se défendre.
Pour revenir à cette question de la formation, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est que s'il y a besoin de former des femmes à combattre ou à être militaire, la formation se fait. Il y a un défilé célèbre en mai 45 de femmes sur les Champs-Élysées. Enfin, quand je dis célèbre, non, qui est beaucoup moins connu que le défilé de la victoire masculin, qui a lieu le lendemain ou le surlendemain, qu'on peut voir dans les archives de l'INA, où il y a tous les corps auxiliaires féminins des armées alliées qui défilent sur les Champs-Élysées. Donc, elles ont appris à marcher au pas, comme les hommes ont appris à marcher au pas. Il y a des conductrices d'ambulances, de camions, il y a des aviatrices, donc il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Il y a même des formatrices femmes. Jeanne Boeck est connue pour avoir été parachutée en Bretagne pour former les résistants au plasticage. Alors, elle avait le droit de les former, mais pas d'utiliser des armes elles-mêmes. Une sorte de paradoxe. Et puis, il y a l'autre chose, qui est à mon avis un point essentiel qui se met en place un peu partout dans les armées européennes, dans les sociétés européennes au XIXe siècle, c'est le service militaire. Mais bien sûr, dans le service militaire, il y a une vocation de formation militaire, mais je crois qu'il y a bien plus que ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce grand moment du XIXe siècle où il s'agit de séparer très clairement les hommes des femmes du point de vue des assignations à la défense de la patrie, du roi, de l'empereur, de qui vous voulez, j'ai envie de dire, où on forme des hommes, certes, à combattre, mais à être aussi obéissants, à avoir une discipline du corps qui est spécifique aux hommes. C'est-à-dire que l'obéissance et le dressage du corps est un des éléments essentiels de ce service militaire, pas uniquement pour la guerre, mais pour la société civile également. Et là, on est, je crois, dans un autre élément qui, là, ne va concerner que les hommes.
La constitution de la virilité, quoi.
Exactement. L'idée, finalement, d'une masculinité virile et militaire et citoyenne se constitue de manière, on va dire, systématique quasiment, à ce moment-là, alors qu'elle est plus éparse à d'autres moments.
Pour les femmes de 1871, c'est difficile de vraiment énoncer quelque chose de fixe sur est-ce qu'elles ont une culture des armes, parce qu'on a un problème de source évident. Ce qu'on peut attraper, c'est souvent quand elles sont devant les conseils de guerre, ces juridictions d'exception qui vont juger les femmes à la sortie dans les années qui suivent la Commune de Paris. C'est des juridictions d'exception parce que précisément la France était en guerre contre la Prusse quand la Commune a éclaté. Ce n'est pas au nom de l'insurrection que c'est d'exception, c'est en raison de l'autre front, qui est le front de la guerre franco-prussienne. On a par exemple une communarde qui s'appelle Julie Magon, on voit dans l'interrogatoire et devant ses juges qu'elle sait distinguer entre deux types de revolvers. Donc ça nous dit quelque chose d'une culture des armes. Mais pour l'essentiel, devant leurs juges, les femmes vont euphémiser leur engagement, y compris leur engagement armé de la dernière partie la plus insurrectionnelle du moment communaliste, qui est la partie où, de fait, les troupes de Versailles vont entrer dans Paris, et là, il y a un accès redoublé aux armes. Elles vont plutôt euphémiser ça, et elles vont plutôt dire, oh, vous savez, moi, je n'ai fait que travailler. Quand bien même, travailler est un mode d'engagement et une façon de travailler à la cause. Mais du coup, on a assez peu de choses sur leur maniement concret des armes. Mais il faut quand même avoir en tête que le fait militaire, le fait armé, le fait de combattre en mai 71, par exemple, c'est aussi faire des barricades. Et ça, on a un peu plus de choses sur le fait que des femmes font des barricades ou haranguent les hommes pour mieux faire les barricades ou vont les chercher au cas où ils seraient un peu planqués au bout du pâté de maison. Et ça, c'est aussi un apprentissage qui se fait dans le cours de l'événement.
Il y a quand même des pétitions, par exemple à l'époque de la Révolution française, où des femmes demandent le droit de se battre et expliquent qu'elles savent très bien le faire et que franchement, il n'y a pas de raison qu'elles n'aient pas le droit de tenir les armes et de défendre elles-mêmes leur pays. On a quand même le sentiment que finalement, d'une façon ou d'une autre, on apprend aux femmes à se battre et qu'elles sont parfaitement capables d'utiliser des armes.
Elles sont bien entendu capables, mais les stéréotypes vont aussi venir s'y ajouter. Je prends l'exemple des snipers et des snipeuses dans l'armée rouge. Donc il y a des femmes qui vont être tireuses d'élite dans l'armée rouge. Et il va y avoir un discours qui va accompagner cette forme de combat, parce que justement, parce qu'elles sont des femmes, elles ont des capacités de concentration, de minutie au moment du tir, qui fait qu'elles sont finalement presque naturellement faites pour avoir ce type de fonction. Alors qu'on imagine ce type de discours plus compliqué en temps de paix, parce qu'il s'agit quand même de descendre un par un le soldat ennemi au bout de sa lunette.
Mais c'est intéressant de voir comment les stéréotypes de genre peuvent être utilisés comme on veut, en fait, pour servir n'importe quelle cause.
Voilà, ils savent très bien s'adapter à la situation.
Exactement.
Et pour la Révolution française, il faut faire aussi attention, c'est que ce demande de port des armes, il est quand même corrélé à une revendication politique derrière, et pas forcément à des gestes techniques qui auraient pu être acquis auparavant.
Extrait du dossier de pension de Sophie Julien. La citoyenne Sophie Julien, native de Beauvais, a l'honneur de vous représenter qu'à l'époque des derniers jours de février 1793, son civisme, le désir de venger sa patrie outragée, tout lui inspire de prendre l'habit d'homme pour être à même de satisfaire à ses désirs en s'enrôlant comme volontaire dans le second bataillon du Pas-de-Calais. Extrait du dossier de pension de Marie-Anne Bruet. Je suis femme et soldat du 21e régiment de chasseurs à cheval, animée d'une ardeur martiale. J'ai voulu, malgré les préjugés de l'éducation, défendre la République les armes à la main. J'ai combattu près de mon mari, soldat dans le même régiment que moi.
C'est la citoyenneté dans le fait militaire qui se joue. La question, c'est la souveraineté. Comment on déploie une souveraineté? Qu'est-ce que c'est en être? Qu'est-ce que c'est être citoyenne, être citoyen? Évidemment, dans un contexte où la citoyenneté est totémique, est fermée, est close, il y a un enjeu de dilatation des frontières de cette citoyenneté.
Il y a la question de la citoyenneté, puis il y a aussi toute la question de la violence des femmes qui est en jeu, malgré tout. On est dans des sociétés qui n'aiment pas que les femmes fassent preuve de violence, pour qui c'est problématique.
Après, c'est ce qu'a pu dire Fabrice, hein, on va rejouer les stéréotypes autour de la douceur féminine. Et par exemple, il y a eu tous les travaux de Christophe Regina sur justement cette violence féminine qui a pu être un peu mise sous le tapis, mais qui existe. Enfin, on les retrouve dans les archives judiciaires et finalement, les femmes peuvent porter les armes, elles peuvent tuer. Et là, c'est il y a un interdit social, il n'y a pas d'interdit technique par ailleurs.
Alors justement, moi j'aimerais bien qu'on parle de la question de la reconnaissance du rôle des femmes dans la guerre, avec plusieurs questions. Déjà, comment est-ce que les femmes qui se battent sont perçues par leurs contemporains? Ça, c'est une question un peu générale. Est-ce qu'on les récompense? Est-ce qu'on les fait monter dans la hiérarchie militaire? Enfin, voilà, quelle place elles vont occuper? Et comment est-ce qu'on va reconnaître le rôle qu'elles peuvent jouer dans le fait militaire?
Alors, il y a une perception qui est assez ambiguë pendant les guerres de religion et qui perdure au-delà de toute façon. Et je pense que c'est la position de Brantôme, hein, pour pas développer trop d'exemples, qui la résume le mieux. Alors, il apprécie hein, l'attitude de ces femmes qui vont combattre, ces guerrières, qui vont protéger leur manoir, leur château. De toute façon, pour lui, ce sont forcément des nobles. Hein, on ne parle pas de n'importe qui. Mais en revanche, il y a quelque chose qu'il n'accepte pas vraiment, c'est que ces femmes se comportent comme des hommes et notamment qu'elles s'habillent comme eux. Ce qui est certains cas qu'il peut citer à cette occasion. Donc, qu'elle meurt au combat, de façon héroïque de préférence, avec des valeurs assez chevaleresques derrière. Mais elle meurt habillée selon leur sexe. Hein, donc en jupon de préférence. Ce serait intéressant hein, d'écouter ce que peut dire d'ailleurs Gaspard de Sceaux, c'est le seigneur de Tavannes, dans ses mémoires, qui lui aussi n'apprécie pas beaucoup de voir ces dames se mettre à la place des hommes.
Que les femmes fassent les femmes, non les capitaines. Si la maladie de leur mari, la minorité de leurs enfants les contraignent se présenter au combat, cela est tolérable pour une fois ou deux en la nécessité. Il leur est plus séant se mêler des affaires en une bonne ville proche des armées que d'entrer en Icelle où elles sont injuriées des ennemis et moquées des amis. Extrait des mémoires de Gaspard de Sceaux, seigneur de Tavannes, publié en 1822.
Effectivement, comme le disait Véronique, les attitudes sont ambiguës. C'est-à-dire que d'un côté, on est quand même dans un discours de guerre qui va évidemment valoriser, héroïser, légitimer l'engagement de la nation, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants ou les vieillards, contre l'ennemi. Et donc les femmes n'échappent évidemment pas à ce discours qui valorise leur action, quelle que soit finalement la nature de leur action. Ça, c'est le cadre général. Ensuite, au niveau social, et on le voit peut-être encore plus dans l'après-guerre, les choses sont plus compliquées, d'une part, et d'autre part, et plus compliquée également, l'image des femmes de l'ennemi. Parce que ses propres femmes sont héroïques, en général, mais celles de l'ennemi, non. Donc on a tout un discours où on voit là apparaître le sexuel, et par la promiscuité que provoque à la fois la mobilisation militaire ou le combat, le soupçon, et parfois plus que le soupçon, l'affirmation très claire d'une sexualité dévoyée. Et donc, par exemple, pour les femmes qui pouvaient être auxiliaires dans l'armée française, la réputation d'être, je cite, des paillasses à officiers, donc c'est extrêmement violent, hein, mais ça veut bien dire qu'il y a un risque finalement pour ces femmes, pour leur moralité, pour qu'elles restent femmes à travers l'expérience de guerre ou l'expérience militaire qu'elles vont avoir. Ça c'est vrai pour celle de l'ennemi, sans aucun doute, mais aussi pour finalement celle de son propre camp. Donc le reproche de la prostitution d'une sexualité dévoyée, et puis surtout, bien qu'il y ait un discours héroïque, bien qu'il puisse y avoir des décorations, des dérogations d'une certaine manière, des décorations, néanmoins, l'idée qu'il faut que les choses rentrent dans l'ordre et que les femmes ont eu un rôle exceptionnel et elles ont été au service, encore une fois, de la patrie, du roi, de l'empereur, de qui on veut, mais une fois que ce n'est plus nécessaire, leur place véritable est évidemment de retourner dans leur famille, d'être prête à accueillir leur mari qui a combattu et voilà, retrouver cette place traditionnelle.
Donc en fait, la guerre et l'engagement féminin sont vus vraiment comme des exceptionnalités, des moments de transgression temporaires.
Alors, oui, sans aucun doute, mais ce n'est pas parce que c'est vu comme que c'est une parenthèse qui se referme sans avoir bouleversé finalement les relations de genre dans les sociétés qui sont confrontées à ces moments-là.
Il y a bien dans les guerres révolutionnaires des femmes qui ont été récompensées, qui ont obtenu des pensions.
Tout d'abord, ces femmes, elles ont transgressé un ordre établi en s'engageant et en prenant un uniforme, en se dissimulant le plus souvent. Certaines ont accompagné un mari à la guerre, il est blessé, il est décédé, elles ont pris les armes, et en tout cas, elles ont eu des actions héroïques. Et elles cherchent à le faire reconnaître une fois la guerre terminée, en insistant bien, et ce que Maria Goupil-Travers a pu montrer, en insistant bien sur l'aspect temporaire de cette situation, à l'appui d'ailleurs de témoignages dégradés de leurs compagnons d'armes éventuellement. Mais c'est toujours cette position exceptionnelle et temporaire qui leur permet de le demander.
Je demande justice à votre majesté. Je lui demande une retraite ou un emploi qu'on m'a refusé jusqu'à présent parce que je suis femme. Mais j'étais femme quand j'ai repris aux Prussiens un parc d'artillerie de 45 pièces de canon sur la montagne du Prince Charles. Quand j'ai sauvé le 11e bataillon du Doubs et un gros détachement de gendarmerie. Quand j'ai pansé les blessés sur le champ de bataille. J'étais femme aussi quand, à la journée du 22 juillet 1793, mes avis ont contribué au salut de toute l'armée du Rhin. Sire, ce n'est point en femme que j'ai fait la guerre. Je l'ai faite en brave. Extrait de la lettre de Marie-Henriette Xaintrailles à Napoléon Ier en mars 1805.
Alors, pendant la Commune, pour les femmes qui ont combattu vont carrément être soupçonnées d'avoir commis des actes terribles.
Donc évidemment, la question, comme le disait Fabrice, c'est qui sont les contemporains et de quel bord ? Et ce qui est intéressant quand même par rapport à la portée de la transgression pendant la Commune, c'est que les femmes soldats du bataillon des fédérés du 12e arrondissement, par exemple, elles vont payer très durement la transgression du fait militaire, du fait guerrier. Elles vont être condamnées à des peines très lourdes. Encore une fois, on a un problème de source pour documenter le rôle, la place et la question des femmes et du genre dans la Commune de Paris. Et on les attrape beaucoup dans les archives des conseils de guerre. Et on voit que les femmes du bataillon des fédérés vont être condamnées plus lourdement parce qu'elles ont participé aux faits guerriers. C'est plus insupportable pour les juges, qu'elles aient eu des armes, qu'elles n'en aient pas eu. Elles vont être condamnées à mort ou à la déportation, ces femmes-là. Comparé à des hommes, c'est beaucoup plus dur. Mais chez les communards aussi, la question se pose. C'est pas homogène, c'est Paris, c'est le Paris populaire, mais ils sont très nombreux, mais ils sont aussi très variés, c'est divers. Et donc, ils sont pas tous d'accord sur le rapport des femmes aux armes. On arrive à l'attraper, ça, avec l'exemple de celle qu'on a appelée la colonelle Vigneault. Et elle va revêtir un uniforme d'officier. Et ça va faire débat dans les journaux communards d'avoir. Elle a passé en revue des troupes communardes et ça fait scandale, en fait. Ça lui sera reproché, elle sera condamnée très durement par les juges versaillais du camp d'en face, mais même par ceux de son propre camp, ce sera une action jugée extrêmement transgressive, qu'elle puisse commander à des hommes, passer en revue des troupes masculines sur le champ de Mars.
Ce mot de pétroleuse, qu'est-ce qu'il signifie ?
Le mot pétroleuse, il est inventé au moment de la Commune de Paris. C'est un mot chaud, c'est un mot ancré dans l'événement, dans la temporalité de l'événement. Et c'est un mot du camp d'en face, parce qu'il est forgé dans la presse versaillaise. Pendant quelques jours, de façon très brève, on va dire pétroleur et pétroleuse, au pluriel, indistinct, non genré. Et très vite, il va se fixer au féminin. Pourquoi il se fixe au féminin ? Parce que, en fait, c'est un stigmate. C'est une façon de renvoyer ces femmes-là non seulement à une action violente, extrêmement violente, qui est le fait d'incendier Paris. Les incendies, à ce moment-là, sont imbriqués dans le fait guerrier, hein, puisqu'on parle des femmes en armes. Mais qu'est-ce que ça implique de dire pétroleuse au lieu de dire communarde ? Parce qu'il peut être utilisé pour indistinctement pour dire communarde, c'est ben qu'en fait on va renvoyer les femmes à une action non seulement violente, mais à une action destructrice, chaotique, mal dégrossie, c'est-à-dire incendier Paris, faire table rase, mettre à sac sa propre ville, son propre quartier et des bâtiments officiels, mais aussi Paris. C'est leur dénier toute une action qu'elles ont pourtant pendant 2 mois, qui est une action proprement politique, citoyenne, à défaut d'être civique, puisqu'elles n'ont pas le droit de vote. Je rappelle qu'elles ne demandent pas le droit de vote et elles ne l'obtiennent pas, évidemment, mais il n'en est même pas question. En revanche, la délibération, c'est quelque chose de très important pour les femmes dans la Commune de Paris. Elles participent au club, elles s'expriment. Il y a des intellectuels. André Léo est une figure intellectuelle très importante pendant la Commune de Paris. Et toutes ces femmes-là, elles contribuent à forger le nouvel ordre social et politique en train d'émerger. Elle contribue à définir les nouveaux contours d'une vie politique au sens large qui s'annonce. Il y a tout cet enjeu-là auquel les femmes contribuent, participent, se mobilisent pour, élaborent quelque chose qui est une action politique. On le voit dans tout l'affichage, dans tout ce qui est placardé, dans la part des réunions publiques, dans l'auto-organisation, dans la manière dont elles vont créer des coopératives féminines et participer à d'autres coopératives mixtes. Elles vont organiser le crédit, par exemple, qui est un enjeu très important dans le mouvement ouvrier dans les années 1860. Tout ça, c'est politique. Et à quoi on les renvoie, en fait? Au fait d'avoir mis à sac la ville, à avoir pétrolé, comme on dit dans la presse versaillaise à l'époque. Et donc, c'est un stigmate pour leur dénier, en fait, la part politique de leur engagement.
Mais après, est-ce que je dérive un peu, mais est-ce que la part politique de leur engagement pendant la Commune, est-ce qu'elle est connue des Versaillais?
Ah bah, ils ont des mouchards.
Ils ont des espions.
On sait ce qui se passe dans les clubs. Et il y a des clubs féminins, on le sait. Et il y a des journaux. André Léo, quand je dis que André Léo est une figure très importante, elle est au moins aussi importante que Eugène Varlin, qui est très connu, que Benoît Malon, que Jules Vallès. C'est juste que nous, on les a moins retenus. Mais au moment de la Commune de Paris, c'est André Léo, par exemple, qui fait des tracts pour les emmener en province, pour tenter de rallier la province. Et c'est intéressant que ce soit une femme, d'ailleurs. Pour tenter de rallier les campagnes et les mondes ruraux à la cause communaliste.
Frère, on te trompe. Nos intérêts sont les mêmes. Ce que je demande, tu le veux aussi. L'affranchissement que je réclame, c'est le tien. Qu'importe si c'est à la ville ou à la campagne que le pain, le vêtement, l'abri, le secours manquent à celui qui produit toute la richesse de ce monde. Qu'importe que l'oppresseur est non gros propriétaire ou industriel. Chez toi, comme chez nous, la journée est longue et rude et ne rapporte pas même ce qu'il faut aux besoins du corps. À toi comme à moi, la liberté, le loisir, la vie de l'esprit et du cœur manquent. Nous sommes encore et toujours, toi et moi, les vassaux de la misère. Si Paris tombe, le joug de misère restera sur votre cou et passera sur celui de vos enfants. Aidez-le donc à triompher et, quoi qu'il arrive, rappelez-vous bien ces paroles. La terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Extrait du tract aux travailleurs des campagnes, déclaration de la Commune de Paris, rédigée par André Léo en avril 1871.
Je dis que c'est intéressant que ce soit une femme parce que c'est Edith Thomas qui est la première à avoir travaillé longuement sur les sources qui nous permettent d'accéder aux femmes en 1871. Elle, dans ses comptages, elle montre que les femmes sont un petit peu plus nombreuses en pourcentage à être issues de la province parmi celles qui sont jugées par les conseils de guerre.
Alors, pour toutes ces femmes qui se battent, hein, sous plein de formes différentes, comment se passe le retour à la normale ou à la vie civile? Est-ce qu'il y a un retour à la normale?
Alors, oui, mais le retour des femmes doit être pensé avec le retour de la société dans son ensemble à la vie civile et la temporalité de la sortie de guerre et de l'après-guerre, qui évidemment prend des aspects et une durée très différente selon le calendrier, on va dire, militaire, politique, et puis le calendrier plus personnel ou intime. En ce qui concerne les femmes, on pourrait peut-être distinguer plusieurs situations possibles, l'une n'étant pas exclusive de l'autre, mais que, d'une part, l'expérience acquise pendant la guerre, ce vécu de la guerre dans l'engagement, là je parle de femmes qui se sont engagées d'une manière ou d'une autre, vont pour certaines se traduire par une volonté de continuer. S'engager en temps de guerre, on le voit bien pour les auxiliaires féminines de la France libre, hein, c'est aussi acquérir une formation professionnelle, radio, conductrice d'ambulance, etc., et de voir continuer cet engagement. Alors, bien sûr, la plupart d'entre elles vont être envoyées dans leur foyer, comme à la fin de la Première Guerre mondiale, d'ailleurs. Néanmoins, il y a là des ouvertures qui se sont créées, qui font que quelques-unes vont pouvoir poursuivre, que c'est aussi à partir de ces auxiliaires que petit à petit, très lentement au début, l'armée française va se féminiser. Donc il y a déjà cette catégorie. Mais pour la plus grande partie, c'est effectivement le retour à la maison et la suspicion que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est qu'est-ce qu'elles ont fait pendant la guerre. Et le qu'est-ce qu'elles ont fait pendant la guerre, contrairement aux hommes où la question ne se pose pas en termes sexuels, se pose davantage en termes sexuels à propos de ces femmes. Elles ont été à côté d'hommes. Sont-elles finalement restées pures dans un contexte où on imagine que tout est possible? Et donc, c'est cette difficulté de se réintégrer dans une vie civile, de reprendre finalement la tenue de l'assignation traditionnelle qui se pose pour une grande partie d'entre elles. Ça, on l'observe dans les différentes sociétés, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, hein, où des femmes se sont trouvées engagées. C'est vrai pour l'Union soviétique, c'est vrai pour la France. Donc c'est quelque chose qui est un peu une constante.
Mais il y a quand même eu pas mal de femmes résistantes, par exemple, qui ont été déportées, donc, dont on est sûr de leur engagement et du camp dans lequel elles étaient.
On ne remet pas en doute, enfin, à l'exception des espionnes ou des traîtresses, qui est une autre catégorie qui ne rejoint pas forcément celle du militaire, on ne doute pas de leur engagement. On doute finalement des à côté de leur engagement. C'est-à-dire qu'elles aient combattu, qu'elles aient été héroïques, c'est une chose. Mais c'est là où on passe peut-être du champ, on va dire, politique et public au champ privé. Hein. Quand il s'agit de se marier, si on a été une combattante, c'est plus difficile. C'est-à-dire, voilà, trouver un homme qui vous accepte en tant que, sauf s'il est lui-même peut-être militaire. On fait des couples de militaires. Mais on voit cette difficulté, finalement, et là, vraiment, au niveau de l'intimité de chacune et de chacun, de retrouver, finalement, de la nécessité pour ces femmes, d'une certaine manière, de prouver qu'elles sont toujours des femmes. Je crois que ça, c'est un élément très important, y compris, et important avec la conscience de ces femmes, et de l'encadrement militaire, d'ailleurs, que même si elles sont soldates, elles doivent rester des femmes. Il y a les 10 commandements de la Merlinette. On évoquait les surnoms. Alors, pétroleuse, c'est péjoratif. Merlinette, c'est plutôt patriarcal. Le général Merlin étant l'autorité, le général qui avait autorité sur les engagés, les auxiliaires de la France libre. Donc, on les surnommait les Merlinettes. Et il y a 10 commandements. Et le premier, Merlinette, de mémoire, hein, sous l'uniforme, ta féminité gardera. Et donc, il y a vraiment cette idée-là. Et quand on engage les Merlinettes, quand on fait des campagnes de recrutement en Afrique du Nord pour la France combattante, la France libre, on s'assure auprès des familles, et ce sont des jeunes femmes, hein, qu'elles ne risquent rien du point de vue de la moralité, qu'elles seront suffisamment encadrées, qu'il n'y aura évidemment pas de cantonnement mixte, mais qu'en plus les cantonnements seront surveillés. Il faut leur promettre, et promettre à leur famille, à leurs frères, à leurs pères, qu'elles ne risquent rien de ce point de vue-là. On voit que là, l'enjeu de la sexualité de ces femmes est très important pour l'autorité militaire, pour ces femmes, leur famille et pour leur devenir après-guerre.
Alors pour la période révolutionnaire, les guerres napoléoniennes par exemple, celles qui ont pu s'engager ou se retrouver à porter l'habit militaire, le retour à la vie civile, Angélique Brulon en témoigne, c'est de devoir mettre une robe, des jupes, enfin voilà, cet habit féminin. Ce problème de retour à la vie civile, c'est peut-être de se travestir en femme pour elle. Il y a surtout l'aspect économique. Hein. C'est aussi pour ça que les demandes de pension sont faites, tout simplement. Marie a pu disparaître, elle se retrouve veuve. Alors elles ont peut-être été cantinières, vivandières, mais leur situation économique est de toute façon précaire. Alors ça, c'est finalement la parenthèse révolutionnaire. Avant, en fait, c'est pas en termes de vie civile, c'est plutôt finalement, c'est retourné à l'ordinaire. Les femmes du peuple retournent dans les boutiques, les paysannes à leurs champs et les nobles à leurs châteaux. Si elles étaient amenées à aller à la chasse, à accompagner à leur mari, elles vont continuer. Donc c'est plus un retour à l'aspect ordinaire des choses, à un quotidien finalement que spécifiquement une vie civile. Enfin, ces divisions-là, elles n'existent pas spécialement à ce moment-là.
À la sortie de la Commune de Paris, la police, l'armée, puis les tribunaux militaires, les conseils de guerre, vont chercher les pétroleuses. Et pour cause, puisque toute la presse versaillaise en a parlé pendant des mois, qu'on a imaginé parfois qu'il y avait 8000 pétroleuses dans Paris en train de mettre le feu. Je précise quand même que c'est une des armes dans le répertoire d'action communaliste, le pétrole. On le retrouve y compris dans des associations de femmes, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés dont je parlais tout à l'heure. Dans ses statuts, à l'article 14, il y a le fait que le jour venu, il s'agira de mobiliser du pétrole. Donc ça ne vient pas de nulle part. Mais pourquoi ce serait plus féminin que masculin le pétrole, et à quoi servaient exactement les incendies? On sait que, par exemple, il y a eu des incendies qui ont été beaucoup déclenchés par l'armée de tiers en entrant dans Paris, ou pour protéger des barricades. Donc, ce n'est pas forcément incendier l'hôtel de ville, même si incendier l'hôtel de ville a aussi eu lieu. Mais pourquoi serait-ce plus au crédit des femmes, ou au débit des femmes, plutôt, en l'occurrence? Ça, c'est une vraie question. En revanche, ils les ont cherchés. Et donc, pendant des mois, et on a des traces de ça, de ces recherches des pétroleuses. Et en fait, ils font chou blanc. C'est qu'il y a 5 procès. Ils sont très attendus, très suivis par les journalistes contemporains. Et il y a seulement 5 procès de femmes dites pétroleuses. Donc, ça fait quand même pchit. Finalement, ce qui leur sera reproché comme chef d'inculpation, c'est appartenance à une bande, excitation à la guerre civile, c'est le terme beaucoup utilisé à l'époque, et complicité d'incendie, complicité d'assassinat, mais plutôt sur le fait que, après tout, elles ont bien pu y participer. Et finalement, 3 seront condamnées à mort, 1 à la déportation et la dernière à 10 ans de prison, mais il n'y en aura que 5. Donc, ils n'arriveront pas à prouver ça. Et il faut avoir en tête qu'une d'entre elles, au moins, est une des fondatrices de l'Union des femmes. Donc, on voit bien que la question de la temporalité dont je parlais, elles peuvent très bien avoir mis le feu au mois de mai, mais fait de la politique ou organiser le travail des femmes pendant les deux mois précédents. Pour le reste, il y a plus de non-lieux chez les femmes du fait de leur activité de vivandière, cantinière, ambulancière, on sait bien, auprès du fait militaire, ça sera plutôt à leur crédit. En fait, les assignations de genre vont plutôt les arranger du point de vue de leur sort judiciaire. Ces femmes-là, ça va plutôt les sauver. En revanche, celles qui vont être reconnues pour avoir, par exemple, porté un uniforme ou porté des armes de façon visible, explicite, elles vont payer plus cher cette transgression des genres. Et on voit bien que les femmes vont finalement se couler dans ce qu'on attend d'elles au moment où elles vont passer au tribunal en disant « Oh, moi, je n'ai fait que travailler. Oh, vous savez, je n'étais pas communarde, j'ai juste cherché à gagner de l'argent. » Ou « Oh, vous savez, je n'étais pas communarde, j'ai juste pensé les plaies d'un brave soldat, ma foi qu'il soit à Versailles ou communarde. Est-ce que c'était pas mon devoir de le soutenir? Et ça, ça sera plutôt moins à leur débit. Et elles vont plutôt être plus exonérées. En revanche, quand ce sera une transgression plus explicitement politique ou plus explicitement militaire, là, les peines sont massivement plus lourdes. C'est-à-dire qu'elles écopent de peines beaucoup plus graves pour des faits équivalents chez un homme. On arrive à comparer ça statistiquement dans les sources.
Mais très peu nombreuses, finalement.
Mais très peu nombreuses.
Nous sommes les tourneuses à l'homme, les membres, les poilus, on est paré du chaise. On peut nous voir dès le matin, nous cavalier en turban. Et tout le jour à l'atelier, on cisèle la cible comme des hommes à l'adresse. On peut dire qu'elles jettent leur jus, les tourneuses ont eu.
Alors, en vous écoutant, je me demandais si le fait que les femmes soient très invisibilisées dans les programmes scolaires quand il s'agit du fait militaire, Est-ce que ça ne serait pas lié justement à ce retour assez prompt au rôle de genre lorsque le conflit est fini ? Ou même au fait que pendant le conflit, leurs actions épousent quand même souvent des rôles de genre ?
Je crois que la question de la faible visibilité, c'est le mot qu'on puisse dire, des femmes dans les programmes scolaires ne concerne pas que la guerre. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pense l'histoire comme une histoire qui est celle des hommes et des femmes ? C'est vrai que pour le moment, on assiste plutôt à un recul de ce point de vue-là, alors que l'historiographie, elle, a très nettement progressé de ce point de vue-là. On n'en est plus à l'époque où la guerre n'est pensée d'un point de vue historiographique comme un événement diplomatique, militaire et politique. Ça, c'est clair depuis longtemps. Ce qui est dommage, c'est que du point de vue des programmes, on en revient à cette vision-là, alors que toute la dimension sociale des conflits, qui est pourtant très largement là, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de travaux sur lesquels s'appuyer pour faire des programmes. Donc c'est vraiment un choix, là, de quel programme on fait, et non pas l'effet de la fin du conflit ou de l'absence de sources, etc.
Et puis on en est encore à chercher, à dire c'est les hommes et les femmes ou à chercher les femmes, et pas tellement à regarder ce que les rapports de genre sont et ce que ça nous dit des épisodes historiques. Et c'est ça qui est très important, il me semble. Moi, je travaille uniquement sur la Commune de Paris, mais on voit bien que, en fait, le fait d'intégrer les femmes, non pas à l'image pour avoir trois icônes de plus et des vignettes, y compris transgressives, etc., c'est l'essentiel, à mon avis, il n'est pas là. C'est qu'est-ce qu'une fois qu'on intègre, qu'on assimile, qu'on métabolise leur mobilisation, qu'est-ce que ça nous dit de l'événement lui-même ? Qu'est-ce que ça nous dit de ce que c'est faire la Révolution ? C'était quoi la Commune de Paris une fois qu'il y a les femmes dedans ? Ben, c'est pas la même chose. Et ça, c'est très important. Et ça nous pousse, notamment, par exemple, à relativiser le fait militaire. Et toutes ces questions-là, elles sont le fait des rapports de genre. Elles ne sont pas le fait qu'il y ait des femmes ou pas des femmes à l'image. Et puis, on a quand même une maladie, mais qui n'est même pas seulement dans les programmes scolaires, mais dans les médias aussi, au niveau de l'iconisation. Et on adore les grandes figures féminines d'héroïnes, complètement, si possible, atypiques, qu'on va adorer décrire en femmes transgressives, et pas tellement vouloir regarder les rapports de genre, éventuellement le trouble dans des formes d'identification, de subjectivation au féminin dans l'événement. Ça, non, c'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, ça va être, concernant la Commune de Paris, Louise Michel, et au mieux, quelques anonymes, mais on va dire « Ah, mais alors, elles étaient en jupon !» C'est pas très intéressant.
Ouais, et puis pour prolonger un peu, au-delà des programmes ou pour les médias, il n'y a pas besoin que les femmes soient dites « puissantes », petite dédicace à Léa Salamé, pour prendre les armes.
La grande maladie des femmes puissantes.
Et des pionnières.
Je crois que ce soit dans les programmes ou dans les médias, on aime bien la caricature. Enfin, on aime bien tout ce qui est clairement différencié. Et des femmes en armes, ça trouble quand même, ça trouble le genre, ça trouble les frontières entre hommes et femmes. Et donc, on préfère parler de Jeanne d'Arc, c'est quand même plus simple.
Oui, mais on peut apercevoir de manière évidente aujourd'hui le paradoxe. Nous enregistrons alors que la guerre a toujours lieu en Ukraine, que l'offensive russe se poursuit, et depuis maintenant 2-3 mois, on voit bien, et c'est un changement important, hein, à quel point le rôle, la présence des femmes, les violences faites aux femmes également, sont en tout cas relevées, questionnent, discutées. Et à côté de ça, on a les programmes où ça n'existerait pas, pour des guerres du passé. Et là, on voit un paradoxe gigantesque, c'est-à-dire que depuis au moins une vingtaine d'années, si je prends le cas de la violence sexuelle, elle est, pour tous les conflits, à un moment ou à un autre, notée. Il y a une attention. Ça ne veut pas dire le problème est réglé, loin s'en faut, mais il y a une attention qui n'existait pas de cette manière-là auparavant. Et donc, c'est incroyable de s'apercevoir qu'au même moment, on a des programmes qui, au contraire, ont fait disparaître cette attention d'une certaine manière.
Alors justement, on ne va pas se contenter de constater les dégâts. On va essayer de réfléchir ensemble. Est-ce qu'il y aura des solutions pour les enseignants qui nous écoutent et qui mettent en œuvre ces programmes ? Comment on peut les aider à faire apparaître les femmes dans leurs cours quand ils parlent de la guerre ?
Alors, en s'appuyant sur les programmes, évidemment, En sachant que Jeanne d'Arc, alors c'est en cinquième, hein, c'est le thème 2 pour les enseignants qui suivent, pour Jeanne d'Arc, c'est l'ombre portée, c'est celle qui va cacher la forêt, parce qu'on a parlé pour l'instant à partir de la période moderne, mais évidemment il y a des femmes qui combattent pendant la guerre de Cent Ans, qui ont pu combattre au moment des croisades, et on n'a pas parlé de toute la période de l'Antiquité. Donc là aussi, il y aurait sans doute des choses à faire. Donc si on reste dans les programmes, Jeanne d'Arc, évidemment, il faut en parler, parce que c'est la fabrique de l'héroïne contemporaine, et de toute façon, ça influence dans les représentations des élèves. D'ailleurs, on peut partir de ce qu'ils savent sur Jeanne d'Arc, pour s'interroger sur justement ces armes que peuvent porter porter les femmes, les armures de Jeanne d'Arc qu'on retrouve dans les illustrations des manuels qui sont juste improbables. C'est comme les armes, hein, les armures, il n'y a pas un modèle en rose et un modèle en bleu. Les armes, elles sont mixtes, et les armures également. Alors, le passage sur Jeanne d'Arc permet d'évoquer ces femmes en armes. Ça va être un petit peu compliqué d'aller plus loin. Par ailleurs, on peut toujours trouver des enluminures qui vont permettre de le faire.
On peut aussi mettre des chevaleresses, montrer des images de chevaleresses, par exemple.
Voilà, il n'y a pas de caractère exceptionnel, finalement, à la situation de Jeanne d'Arc, sauf dans la position où elle a eu accès au roi et la façon dont son image est utilisée au siècle suivant. En revanche, le programme de quatrième, où la Révolution est évoquée, où Napoléon est évoqué, c'est un grand copain, là, permettent effectivement de permettre aux femmes d'apparaître enfin et de remettre sur le devant de la scène leur rôle. Enfin, les femmes à la Bastille, il y a des sources. Il suffit de regarder un petit peu du côté des travaux de Jean-Clément Martin. On arrive, et elles sont en ligne, hein, ces sources, hein, pas très compliqué de les retrouver. On pourra peut-être mettre le lien ensuite. Donc, pendant la Révolution, la Bastille, la marche des femmes sur Versailles, elles ont aussi les armes, et puis se servir et s'appuyer de cette loi de 1793 qui les écarte, et de retrouver les débats également.
Oui, alors ça, c'est peut-être la seule partie du programme où on voit quand même des femmes qui usent de violence et qui, effectivement, vont chercher le roi à Versailles, etc. Et finalement, la question, c'est même lorsqu'on va dire qu'il y a des femmes qui se battent ou qui utilisent la violence au moment de la Révolution française, comment est-ce que c'est fait? Et finalement, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la mise en œuvre de ces documents qui montrent la violence des femmes?
On peut reprendre un déroulé chronologique pour l'année 89, hein, qui permet de toute façon, on peut pas éviter de la chronologie sur ces événements, donc elles apparaissent forcément. C'est pas la prise de la Bastille, c'est la présence d'hommes, de femmes, de Parisiens et de Parisiennes à la Bastille. Enfin, c'est juste une apparition dans l'écriture également que l'on peut faire. Dans les documents proposés, tout simplement parce qu'il y a des débats lors de l'Assemblée nationale, on nous demande de faire travailler justement des débats auprès des élèves. On peut très bien partir de ce qui a pu se passer au moment de la Révolution sur la place de ces femmes au cœur de la cité, hein, parce qu'on en a parlé tout à l'heure sur les revendications dans la vie politique pour devenir citoyenne à part entière. Et puis aussi, on peut ensuite, avec le chapitre autour de Napoléon et de son arrivée au pouvoir, montrer ensuite comment le blocage se met en place et comment l'invisibilisation et le retour au foyer des femmes est mis en place par la suite.
Concernant Louise Michel, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, même si avec les 150 ans de la Commune, on a vu vraiment comme jamais apparaître à l'image et l'intérêt des gens en librairie, l'intérêt des élèves, l'intérêt des enseignants, les médias. Voilà, on a vu quelque chose de nouveau et une féminisation de ce que ça peut être un communard, c'est-à-dire aussi une communarde. Hein. Je veux juste rappeler qu'il y a 4 ans, quand j'ai commencé à faire des recherches universitaires sur un groupe de femmes mobilisées dans la Commune de Paris, qui est celui de l'Union des femmes. Il y a un grand patron de l'histoire sociale qui m'a dit « Mais est-ce qu'avoir été la femme d'un communard suffit à faire de vous une communarde ?» J'adore cette anecdote. Maintenant, on en est un peu loin d'un point de vue de l'imaginaire collectif. Il s'est un peu dilaté et on sait qu'il y a des femmes. Néanmoins, Louise Michel reste omniprésente, y compris à l'école. Et je trouve que dès qu'on... Mais c'est valable pour la Commune et c'est valable pour d'autres périodes. Dès qu'il y a une icône, il faut, je trouve que ça vaut le coup de se nourrir de travaux sur l'usage de ces icônes. Pourquoi elle et qu'est-ce qu'on en fait exactement? Et là-dessus, il y a par exemple les travaux de Sidonie Vérac qui a fait une excellente thèse sur l'usage de Louise Michel, l'appropriation de Louise Michel, qui me semble intéressante, au moins pour essayer comme ça de redescendre la charge symbolique trop fort autour de ces icônes.
De toute façon, ce qu'il faut éviter, c'est ce que les programmes précédents avaient pu faire, par exemple pour les femmes, c'est les mettre dans un dossier à part ou un chapitre à part. On fait du genre. L'histoire des femmes, c'est l'histoire des femmes et des hommes, de leurs rapports qui ont pu être houleux par ailleurs. Mais on évite de les mettre à la marge ou effectivement avec une petite vignette dans un manuel ou tout simplement un point de passage qui ferait que, voilà, Olympe de Gouges, Théroigne de Mérécourt, ça devient juste insupportable comme lecture de l'histoire.
Pour résumer, plus de femmes, des femmes dans des rôles différents, des femmes qu'on va faire apparaître au fur et à mesure des cours et non pas dans des dossiers à part, qu'on va intégrer aux chronologies, qu'on va placer non seulement en photographie, mais aussi comme autrice, dans les biographies. Bref, mettez des femmes dans vos manuels et mettez des femmes dans vos cours.
On voit bien à travers les programmes comme... On est un peu contraint de s'appuyer devant des hommes et quelques femmes célèbres pour finalement faire apparaître plus efficacement ce qu'il en est de la place des femmes dans l'histoire et dans les conflits. Alors bon, c'est un peu un passage obligé aujourd'hui, mais je trouve qu'il faut garder à l'esprit que nous sommes, en enseignant l'histoire ou en faisant métier d'historien ou d'historienne, à vouloir montrer, comprendre comment les rapports de genre régissent nos sociétés en guerre. Et de ce point de vue-là, bien sûr qu'il faut pointer, montrer où sont les femmes dans les documents ou ailleurs, mais je crois qu'il peut aussi avoir, et ça, je pense qu'il faut le faire de manière systématique, c'est-à-dire pas uniquement autour d'un document consacré aux femmes dans la guerre, mais tous les documents sur la guerre sont un moment où on peut montrer comment se répartissent ou pas, ou au contraire, sont unis finalement dans les mêmes rôles ou fonctions, hommes et femmes. La photo de Yalta, que je crois qu'il est toujours dans les manuels scolaires, peut aussi être analysé en termes de représentation du pouvoir. On fait souvent, à l'époque moderne, je crois qu'on le fait toujours, la représentation du roi en majesté. Le roi en majesté, c'est une masculinité. Et quand on a la photo d'Yalta ou de généraux, d'une brochette de généraux à un endroit ou à un autre, c'est aussi une représentation du pouvoir masculin. Et je crois que le faire de temps en temps, c'est garder cette attention, quels que soient finalement les documents. Alors, on ne va pas le faire à chaque fois, mais je crois que c'est comme ça aussi qu'on peut montrer tout l'intérêt et tout ce que ça nous apporte d'envisager les conflits, la place des femmes dans les conflits, mais au-delà de ça, comment ils imprègnent profondément, ils bouleversent profondément nos sociétés, pas uniquement à travers les batailles, les accords qui en découlent, mais à travers l'expérience vécue par ces sociétés qui sont bien évidemment mixtes.
Au passage, d'ailleurs, de plus en plus de travaux sur le rôle des femmes dans la diplomatie. Alors, merci à tous les trois. Merci d'avoir participé à ce premier épisode sur la guerre. J'aimerais beaucoup revenir l'année prochaine sur cette thématique, peut-être en travaillant sur les violences de guerre, puisque c'est un gros sujet passionnant et nous n'avions pas du tout le temps d'aborder aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.
Vous pouvez retrouver la bibliographie qui concerne cet épisode sur le site internet de Mnemosyne. Elle pourra vous aiguiller et vous aider à réfléchir sur la question des femmes en armes. Ce podcast vous a été présenté par l'association Mnémosyne pour l'histoire des femmes et du genre, avec à la production Cécile Béguin, à la réalisation Fanny Cohen-Moreau et Alice Durieux, et à la lecture des textes Clémentine Le Tellier. Dans le prochain épisode, nous recevrons Pascal Mormiche pour nous parler de l'éducation des filles au XVIe et XVIIe siècle. À bientôt !